Ah oui, avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire une petite remarque. Vous avez entendu, je parle de Mahomet. Depuis quelques années, il est très tendance, comme on dirait, ou très à la mode, de dire Mohamed ou Muhammad, quand on parle du prophète de l'islam. Moi, je maintiens Mahomet, et je vais vous dire pourquoi, en vous invitant de faire de même. Mahomet, c'est le génie de la langue française qui a forgé cette traduction. Depuis le 9e, 10e siècle, on parle de Mahomet, quand on veut parler du personnage, en français. Je ne vois pas pourquoi on trahirait notre génie. Parce que c'est une question de logique et de bon sens. Si on dit Mohamed ou Muhammad, eh bien, pourquoi on ne dirait pas aussi London au lieu de Londres? Voyez, pourquoi est-ce qu'on ne renoncerait pas à notre manière, à nous, de dire les noms propres, que ce soit des noms de personnes ou des noms de lieux, peu importe. Nous avons une logique, un génie dans notre langue qu'il faut respecter. Voyez. C'est comme on dit aussi beaucoup Arabie Saoudite aujourd'hui, mais c'est faux. Nous, en français, c'est Arabie Saoudite. Le fondateur du royaume d'Arabie, c'est Ibn Saoud, avec un E accent aigu. Et Saoud, c'est de l'anglo-saxon, voyez. Et Muhammad, c'est de l'anglo-saxon aussi. Mohamed, c'est un peu différent. Mais en tout cas, Mohamed, c'est arabe, si vous voulez. Mais il n'y a aucune raison de changer notre habitude, parce que ça fait partie du reniement de nous-mêmes, de notre culture. Attendez, excusez-moi. J'ajoute une chose, c'est que moi, je connais plusieurs écrivains musulmans qui, malgré cette mode actuelle, continuent, quand ils écrivent en français, à écrire Mahomet. Voyez ? Alors, je ne vois pas pourquoi on céderait à des pressions qui nous sont faites. Ce n'est pas du tout manquer de respect à Mahomet et aux musulmans que de continuer à parler comme nous le commande, en quelque sorte, le génie de notre langue. Oui ?
Il y a certains mots étrangers qui sont passés, certains mots anglais.
Oui ?
Je
parle des noms propres là, hein. Oui, mais bien sûr, je suis contre le fait que maintenant on dit Beijing au lieu de Pékin. C'est absurde. Moi, je n'écrirai jamais Beijing. J'écris Pékin, voilà. Ou Antananarive au lieu de Tananarive pour le Madagascar. Voilà. Donc il faut pas céder à ces pressions. Moi, c'était une précision au passage. Depuis le moment que je parle de Mahomet, je dis il faut que je mette ça au clair. Bon, nous en étions donc à l'islam comme monoprophétisme et Mahomet comme au centre de l'humanisme musulman. Alors, dans les relations avec les musulmans, il y a bien sûr la question qui se pose, elle est cruciale. Est-ce que nous, les chrétiens, nous pouvons reconnaître Mahomet comme un prophète? Souvent, les musulmans nous disent, c'est une phrase piégée, vous allez voir, biaisée, ils nous disent, nous reconnaissons Jésus comme prophète. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas Mahomet comme prophète? Et nous serons d'accord. Le problème, maintenant que vous avez écouté, vous savez, c'est que le Jésus coranique n'est pas vraiment le même le Jésus de la Bible. Donc, à ce moment-là, il faut dire aux musulmans, mais en quel Jésus vous croyez? Qui est le Jésus du Coran? Il faut s'expliquer comme ça. Alors, bien sûr, un chrétien ne peut pas affirmer que Mahomet est un prophète. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne parlent en aucun cas de Mahomet, même si les musulmans croient que c'est le paraclet qui se cache, qui signifie Mahomet. Parce que comment est-ce qu'un chrétien pourrait reconnaître Mahomet comme un prophète dans la mesure où le Coran combat l'essentiel de la doctrine chrétienne? C'est pas possible. C'est vraiment le bon sens qui nous fait réagir comme ça. Et ça ne sert à rien dans le dialogue de chercher à plaire en faisant des concessions à notre doctrine. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on va être respecté. Dans le dialogue avec les musulmans, il faut la charité, mais aussi la vérité. Les deux sont indissociables. Il faut bien être clair. Vraiment, la clarté, c'est la clé d'un dialogue fructueux. Si on dit, pour faire plaisir à un musulman, mais oui, Mahomet était un prophète, etc., qu'est-ce qu'il va penser? Il va dire, ben celui-là, il est chrétien ou il est musulman? Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a?
En même temps, je ne sais pas, c'est vraiment ce dialogue il y a des oppositions telles entre
oui.
Les religions. On a pu voir à travers l'histoire que de toute façon, ça se résonnera, pas comme ça.
Bon, alors, ça, je vous en parlerai demain après-midi. Qu'est-ce que l'Église entend par le dialogue interreligieux avec les musulmans? Ben oui, enfin, bon. Mais je vous en parlerai. Alors, concernant Mahomet, j'avoue avoir été complètement effarée en lisant il y a quelques années, c'était en 2001, le journal La Croix, le quotidien français La Croix, avait fait toute une enquête sur le rapport des catholiques à la Bible. Et dans cette enquête, il y avait un sondage. Dans le sondage en question, enfin les résultats, faisait ressortir que 1% des catholiques de France considéraient Mahomet comme un personnage biblique. Oui, c'est authentique. Alors, bien sûr, 1%, ce n'est pas beaucoup, mais quand même, auparavant, jamais on aurait eu un catholique affirmer, entendu un catholique affirmer que Mahomet était un personnage biblique. Ça montre bien dans quel état de confusion doctrinale nous nous trouvons aujourd'hui. Et puis, de toute façon, en tant que chrétien, on doit toujours se référer à l'enseignement du magistère. L'Église n'a jamais reconnu Mahomet comme un prophète. Reconnaître Mahomet comme un prophète, ça voudrait dire, donc, adhérer à une doctrine qui est contraire à la doctrine chrétienne. Et ça voudrait dire aussi, finalement, entrer dans l'islam. C'est une question de cohérence qui nous fait adopter cette attitude. Mais par contre, je crois, tout à l'heure j'ai parlé des défauts et même des péchés de Mahomet, mais je pense on peut considérer que dans certains aspects de l'attitude de Mahomet, il y a eu des accents prophétiques, notamment dans la période de la Mecque. Comme je l'ai dit ce matin, au début de sa prédication, Mahomet a mis l'accent sur l'honnêteté dans les transactions commerciales, sur les soins à prendre de la veuve et de l'orphelin, des pauvres en général. Bon, le respect des parents aussi, le Coran en parle. Ce sont des versets qui datent de la période de la Mecque. Donc là, on peut dire qu'il y a ce qu'on appelle couramment des accents prophétiques, mais pas du tout dans le sens du prophétisme tel qu'on le comprend dans la Bible. Le prophétisme, les prophètes qui sont venus sur terre pour annoncer l'arrivée du Messie. On peut aussi admirer, d'une certaine manière, le génie dont Mahomet a fait preuve, parce qu'après tout, il a apporté un système politico-religieux. C'est pas n'importe qui peut instaurer un tel système, et une religion qui a prospéré dans quelles conditions, puisque on voit maintenant le très grand nombre de fidèles musulmans dans le monde. Alors, concernant cette partie-là, on parle aujourd'hui souvent des trois religions abrahamiques, je vous l'ai dit au début. On en parle dans un but de rapprochement ou de dialogue. Bon, du point de vue de la fraternité entre les hommes, l'approche peut être acceptable. Mais du point de vue doctrinal, c'est tout à fait impossible. Dans l'optique musulmane, seul l'islam remonte à l'authentique tradition monothéiste d'Abraham. Seul celui qui adhère à l'islam appartient à sa descendance, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On est là aussi dans une contradiction importante avec l'enseignement de la tradition chrétienne. Il suffit d'aller voir l'épître de saint Paul aux Galates, dans laquelle l'apôtre donc explique que Jésus est le seul descendant d'Abraham. C'est dans Galates, chapitre 3, versets 15 à 18. Et mieux encore, Jésus, dans l'évangile selon saint Jean, il s'adresse aux Juifs en leur disant « Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour, il l'a vu et fut dans la joie. » Chapitre 8, verset 56, donc l'évangile de saint Jean. Comme je l'ai déjà dit, l'Abraham du Coran n'a pas bénéficié de l'alliance, d'une alliance avec Dieu, donc il s'agit d'un Abraham incomplet. Et l'Église catholique n'a jamais accrédité formellement l'islam en tant que religion abrahamique. Les documents du Concile Vatican II, par exemple, prennent acte du fait que les musulmans se rattachent à Abraham, mais n'en tirent aucune conclusion théologique. Dans le document Nostra Aetate, qui est la charte du dialogue interreligieux, il est dit « Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. On prend acte, si vous voulez, mais encore une fois, on n'en fait aucune déduction théologique. Et ce n'est pas possible, bien sûr. Les messages bibliques et coraniques comportent des contenus tellement contradictoires et même incompatibles entre eux que la reconnaissance pure et simple du prophétisme de Mahomet et de l'islam d'Abraham entraîne un chrétien dans l'erreur par rapport à sa foi. Et là, je vous renvoie aussi à un passage d'un document du Concile Vatican II. Il s'agit de la constitution dogmatique sur la révélation divine, Dei Verbum, au numéro 4, où l'Église nous dit « L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera jamais et aucune autre révélation publique n'est à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, Dei Verbum numéro 4. Donc, c'est bien clair, vous voyez. Si bien que, en définitive, bien qu'il soit apparu chronologiquement après les deux autres monothéismes, judaïsme et christianisme, l'islam n'est pas leur accomplissement. Parce que certains disent, ben oui, alors il est arrivé en troisième lieu dans l'histoire humaine, donc c'est bien qu'il complète, qu'il accomplit, etc. Non, l'argument chronologique ne tient pas. C'est pas ça qui compte. L'islam n'est pas accomplissement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se présente comme le rappel du pacte primordial. Le rappel du pacte primordial que les hommes ont négligé, oublié, ou auquel ils ont été infidèles. Donc c'est un rappel. Le rappel du pacte primordial est le monothéisme inscrit par Dieu dans le cœur de l'homme, donc dès l'origine. Oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce pacte primordial. Je n'avais pas sous les yeux l'épisode du Coran qui le relate. Alors je vous le donne maintenant. Donc, dès l'origine, Dieu inscrit dans le cœur de l'homme, dans la nature de l'homme, la religion musulmane, qui est considérée comme un pacte pré-éternel ou bien primordial. On peut traduire des deux manières. En arabe, c'est mitak, le pacte mitak, M-I-T-H-A-Q. Alors voilà ce que dit le Coran à ce sujet. Il s'adresse à Adam. Il s'adresse aux musulmans, excusez-moi. Quand ton Seigneur, Dieu donc, tira une descendance d'Airain des fils d'Adam, il les fit témoigner contre eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Alors ils dirent, les fils d'Adam, ils dirent, « Oui, nous en témoignons. » C'est ça le pacte primordial. Sourate 7, verset 172.